La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Les voies de l'économie, c'est maintenant à 7h13 sur Radio Classique. François, votre invité, est le directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières.
Bonjour Patrice Geoffron.
Bonjour.
Ce centre rattaché à Paris Dauphine, PSL, où vous êtes professeur, vous êtes aussi membre du Cercle des économistes. On sent beaucoup de pression autour d'EDF. En ce moment, entreprise renationalisée depuis bientôt un an, les sujets délicats s'accumulent, à commencer par l'imminence, on bouillonne, de la mise en service de l'EPR de Flamanville, chantier lancé il y a 15 ans. Est-ce que cette fois c'est la bonne quand on dit que le raccordement au réseau électrique national c'est pour cet été?
Alors la bonne, oui, sans doute pour 2014. Je pense que sur ce point, il y a d'assez bonnes 2024. Le lapsus est intéressant oui. Et on aurait pu se retrouver l'an 2014 pour faire l'inauguration. Donc du retard a été pris. Probablement également, c'est en cours sur le projet britannique. Donc ça montre finalement que l'ensemble des projets d'EPR qui sont en cours sont tous grosso modo des têtes de série, c'est-à-dire que cette série n'est pas encore lancée de telle manière à ce que les délais soient mieux tenus et les coûts également soient mieux tenus, parce que en matière nucléaire, ce qui est absolument essentiel, c'est le coût du capital, c'est-à-dire la manière dont on va financer le projet et la durée de ce projet. Et lorsqu'on a un coût du capital relativement élevé, ce qui est le cas en Grande-Bretagne, et lorsque les délais explosent, à ce moment-là, évidemment, le coût de l'ensemble du projet explose. Et ce qui est assez préoccupant, c'est que les termes du financement du programme français à venir, de l'EPR2, dit EPR2, donc qui devrait voir le jour quelque part progressivement.
Ça, c'est pour les 6 futurs nouveaux EPR après celui futurs, de Flamanville, 6, voilà. Voire 14.
Voilà, le schéma de financement n'est pas encore précisé, donc on est dans le flou. Et donc, c'est compliqué, évidemment, de lancer une grande filière industrielle, plutôt de la relancer en n'ayant pas, notamment, ces éléments de financement qui sont, à l'heure actuelle, précisés.
Effectivement, donc Flamanville, le budget a quadruplé. Hinkley Point au Royaume-Uni, on est entre x1,5 et x2. On est loin d'être arrivé au bout. Et puis, il y a donc les futurs EPR2. Pour l'instant, on serait non plus à 50 milliards, mais à 67 milliards. Finalement, est-ce que l'EPR et le nucléaire, ce sont vraiment des énergies économiques? On nous dit souvent c'est une énergie bon marché. Alors, est-ce qu'elle est en train de le rester?
Pour le comprendre, en fait, il faut se référer à ce que nous a dit RTE. Vous savez, RTE, c'est le transporteur d'électricité qui a produit des scénarios à la demande du gouvernement, et dans ce scénario qui nous projette à 2050, on sait qu'il va nous falloir beaucoup plus d'électricité. Au moment où nous parlons, il y a à peu près 25% de nos consommations énergétiques qui sont fournies par l'électricité, il va falloir passer au moins à la moitié. On le comprend aisément, c'est les véhicules électriques, les pompes à chaleur, peut-être des électrolyseurs de telle manière à produire de l'hydrogène, etc., etc. Donc on a devant nous de grandes transformations. Et ce que l'on sait sur la base du travail d'RTE, c'est qu'il va nous falloir à la fois plus de nucléaire et beaucoup plus de renouvelables. Et au moment où nous parlons, eh bien, la partie renouvelable est au moins aussi préoccupante que ce que vous venez d'évoquer concernant le nucléaire, parce que la puissance publique n'a pas été en mesure de tracer un plan de déploiement qui soit clair dans ce domaine.
Donc c'est ce retard qui nous coûte cher, que ce soit dans le nucléaire ou dans le renouvelable?
En tout cas, ça obère nos perspectives de décarbonation et puis par ailleurs nos perspectives globalement d'attractivité, de réindustrialisation. Il y a la volonté d'être un grand pays décarboné et c'est le cas d'ailleurs au moment où nous parlons à l'heure actuelle. J'ai regardé les données en temps réel à 7h du matin. La production du secteur électrique français, les émissions étaient de 20 grammes par kilowattheure. C'est un peu plus de 200 grammes en Allemagne et de 600 grammes en Pologne.
Là, donc on est vraiment une énergie décarbonée.
Mais simplement, ça ne couvre qu'un quart de nos besoins énergétiques. Donc la question, c'est comment on passe de ce quart à peu près au double et comment on le fait de manière ordonnée. Et à court terme, l'enjeu, c'est comment maintenir à bon niveau la production électronucléaire du parc actuel, qui a connu pour le moins des difficultés l'hiver dernier, en 2022-2023. Et donc de faire remonter la production, ça c'est le chantier prioritaire. Comment déployer des renouvelables très rapidement? Et puis comment programmer les futurs chantiers de PR2, donc le nouveau design sur la base du retour d'expérience de l'EPR à l'heure actuelle. Donc ça fait un cahier des charges assez dense.
c'est clair. Patrice Geoffron, il y a aussi des sujets de gouvernance, puisque, je le disais, EDF est de nouveau une entreprise 100% publique. Bruno Le Maire s'est d'ailleurs invité à un récent comité exécutif pour mettre de la pression. EDF lui-même réorganise un peu sa division nucléaire avec non plus deux directions, mais quatre. On ne va pas tout détailler, mais est-ce que tout ça va dans le bon sens ou est-ce qu'on ajoute de la pression, j'allais dire malsaine, en tout cas de la pression un peu qui bloque?
Bah, d'un côté, l'État, donc via Bruno Le Maire en tant qu'actionnaire unique, est fondé à le faire. Après, voilà, ce type d'injonction, j'y crois assez peu, notamment lorsqu'on regarde finalement ce qu'ont été les orientations de la politique publique au cours des 10 dernières années, qui ont procédé plutôt du stop and go. Donc, on peut pas dire que l'État, en tant que puissance tutélaire sur le nucléaire, a été, constante. Ça explique une partie des difficultés, c'est notamment ce qu'avait dit clairement Jean-Bernard Lévy, le prédécesseur de Luc Rémont. Il y a une nouvelle organisation qui est en train de se mettre en place. En tant modestement qu'économiste, je ne suis pas en mesure d'apprécier la portée de ces quatre divisions qui sont mises en œuvre. Ce qui est tout à fait clair, c'est qu'il y a à la fois la volonté, évidemment, de partir sur des bases qui permettent de maintenir les coûts sur l'EPR2, mais dont le design devrait être précisé d'ici l'été, d'avoir des développements également à l'international. Il y a une grande ambition d'EDF dans ce domaine, de maintenir à niveau et d'augmenter la production du parc actuel, et puis de développer également des projets de SMR, des petits réacteurs de moyenne taille ou de toute petite taille et d'être présent également dans ce domaine. Donc c'est le lancement d'un programme très lourd et dans un contexte très différent de ce qui s'était opéré dans les années 70. On était là dans une entreprise verticalement intégrée, Électricité de France, qui était liée au gaz également à cette époque, et puis sans concurrence et sans pression européenne en matière de concurrence. Donc les temps ont changé pour le moins.
Il nous reste un peu de temps pour parler aussi du conflit au Proche-Orient, Patrice Geoffron, avec des tensions accrues entre Israël et l'Iran. Quel rôle jouent à ce stade les enjeux économiques et notamment énergétiques ?
Alors en tout cas, vu d'Europe, ils sont absolument essentiels. On a rompu les amarres dans les conditions que l'on sait avec la Russie, pas simplement sur le gaz, mais également sur le pétrole. La Russie était le premier fournisseur de pétrole, de produits pétroliers de l'Europe, très loin devant tout autre producteur, y compris l'Arabie Saoudite. Et c'est important, notamment en France, on était très dépendant du diesel dans ce domaine. Donc tout ça est derrière nous. On a établi et on a renforcé deux dépendances, l'une en matière de gaz naturel liquéfié avec les États-Unis, ce qui pourrait nous poser un problème. Trump redevenait président et si il en faisait un moyen de pression dans le cadre notamment de l'OTAN, laissons ça de côté si on peut dire. Et puis par ailleurs au Moyen-Orient, il y a à l'heure actuelle plus finalement d'hydrocarbures qui nous arrivent, notamment du Qatar, du gaz naturel liquéfié, donc il doit suivre un chemin qui est assez tortueux en sortant du détroit d'Ormuz. Dans le détroit d'Ormuz, face à face, vous avez l'Arabie Saoudite et l'Iran qui n'ont pas les meilleurs rapports du monde. Et puis qui doit remonter dans la mer Rouge ou contourner l'Afrique pour arriver jusqu'en Europe. Donc évidemment, les tensions à l'heure actuelle, y compris en Syrie avec le bombardement de l'ambassade d'Iran, est évidemment un sujet de très très grande attention et de préoccupation, qui d'ailleurs doit nous déterminer encore plus à nous décarboner. Et puis finalement, la seule solution, c'est
surtout
la réduction de nos dépendances. La France importe 99% de son pétrole et 98% de son gaz. Et c'est dans ce contexte que les bruits de bottes, si on peut dire, au Moyen-Orient nous arrivent.
Vous aurez noté que Patrice Geoffron manie à merveille l'euphémisme et la litote ce matin. Patrice Geoffron, merci beaucoup, membre du Cercle des économistes et donc directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. Très bonne journée.
François, vous revenez demain dès 6h pour la matinale de l'économie et ça n'est pas un euphémisme. Le décryptage de l'économie à 8h-10, c'est David Barou qui nous explique pourquoi la croissance de Tesla ralentit. Et dans 3 minutes, David Doucan vous raconte les ressorts de l'affaire Bayou qui vient de quitter les Verts avec perte et fracas. Radio Classique, il est 7h20.